Il faut qu'une nouvelle source d'énergie soit découverte qui va bouleverser le monde. Ensuite, il faut des nouveaux modes de communication. Et quand je dis nouveaux modes de communication, ça veut dire à la fois communication des idées, par exemple le téléphone ou l'Internet permettent de communiquer des idées, mais c'est aussi communication des choses et des personnes, des marchandises et des personnes. Par exemple, le train permet, ou l'avion permet, ou la voiture de transporter des marchandises et des personnes. Donc, nouvelle source d'énergie. Nouveau mode de communication double, hein, des idées et des marchandises et des personnes. Et puis, troisième élément, pour qu'il y ait une révolution industrielle, une nouvelle organisation de l'économie qui dépend des deux niveaux précédents. C'est-à-dire à la fois des nouvelles sources d'énergie et des nouveaux modes de communication. Il faut donc que ces trois éléments soient associés entre eux pour qu'on puisse parler véritablement de révolution industrielle. Donc toute innovation n'est pas une révolution industrielle pour autant. Et je pense que c'est l'erreur de Klaus Schwab, c'est de croire que par exemple la robotique couplée avec l'intelligence artificielle aujourd'hui, donc ce développement des robots et de l'intelligence artificielle, forme une quatrième révolution, alors que de toute évidence ça fait partie de la troisième. Et vous verrez pourquoi tout à l'heure, encore une fois, c'est très important de ne pas se tromper sur ce sujet, parce que ces révolutions sont longues, et je le dis tout de suite, parce que sinon, mais je vais y revenir, sinon c'est un peu annoncer des choses sans dire pourquoi, mais il y a toujours dans les grandes révolutions industrielles un moment qu'on pourrait dire schumpeterien, parce que Schumpeter est celui qui a pensé la destruction créatrice, c'est-à-dire l'idée que les grandes innovations détruisent les emplois. Par exemple, aujourd'hui, il est évident que la robotique détruit un certain nombre d'emplois, puisque quand on remplace par exemple une caissière au G20 par une machine, ou à Air France, ou à McDonald's, quand on remplace les personnes par des machines intelligentes, parce que tout ça fonctionne, c'est pas simplement de la robotique, c'est de la robotique avec de l'intelligence artificielle, on détruit des emplois. Et donc, il y a toujours un moment où les grandes innovations détruisent des emplois. Et puis, il y a un deuxième temps dans lequel ces innovations permettent de fabriquer, de concevoir des objets de consommation courante qui recréent de l'économie, qui recréent un monde marchand et par conséquent recréent aussi de la prospérité et des emplois. Donc, il est important de voir que toutes ces grandes révolutions industrielles sont composées de ces deux moments. Un moment schumpeterien, si on veut, de destruction d'emplois anciens par les technologies nouvelles, et puis un moment keynésien, si on veut, où, en quelque sorte, cette première étape rend ce qu'elle a pris et recrée des emplois, recrée du bien-être, recrée de la prospérité et du progrès. En tout cas, c'est l'idée qui, je crois, est très clairement présente dans les deux premières révolutions industrielles. Il n'y a aucune raison pour que ça ne soit pas la même chose dans la troisième. Quelles sont ces trois révolutions industrielles? On va, encore une fois, surtout s'intéresser à la troisième, mais voyons quand même les deux premières. Parce que c'est très intéressant aussi philosophiquement de voir comment elles accompagnent l'histoire de la modernité, c'est-à-dire l'histoire de l'humanisme moderne. Sans ces révolutions, il n'y aurait pas eu d'humanisme. Alors, je ne vais pas défendre une thèse marxiste plate où l'infrastructure détermine les superstructures. Mais en tout cas, ce qui est certain, sans entrer dans ce débat, c'est que ces révolutions industrielles, elles marquent les étapes de l'évolution de l'humanisme philosophique. L'évolution des idées marche de pair avec celle de ces bouleversements économiques et sociétaux, comme on dit aujourd'hui. Première révolution industrielle, Watt, la machine à vapeur, 1769, donc on est à la fin du XVIIIe siècle, et cette découverte, cette invention de la machine à vapeur, elle va permettre quelque chose en termes de communication qui est tout à fait fascinant, qui mériterait d'ailleurs à soi seul largement plusieurs CD, c'est que cette machine à vapeur couplée avec la machine à imprimer de Gutenberg, si je puis dire, eh bien, elle va permettre l'impression des journaux et l'impression des livres bon marché, des manuels scolaires, par exemple, de telle sorte que, c'est ce qu'on appelle les rotatives des journaux, les rotatives des imprimeurs dans l'imprimerie industrielle, eh bien, cette machine à vapeur couplée avec la machine à imprimer, elle va permettre la presse, l'apparition de la grande presse, c'est-à-dire tout simplement l'apparition de la démocratie, parce que sans la presse, et quoi qu'on pense de la presse, j'en pense pas toujours du bien, mais elle est indispensable à l'espace public au sens de Habermas, de l'Öffentlichkeit, de l'espace ouvert, sans lequel il n'y a pas de débat démocratique. Donc cette découverte, en quelque sorte, de la machine à vapeur couplée avec la machine à imprimerie, ça va permettre la grande presse, donc la naissance de la Respublica, de l'espace démocratique, et puis de l'autre côté, c'est aussi la naissance de l'instruction public, comme on va dire, parce que sans manuel scolaire bon marché, sans livre bon marché, il n'y a pas d'éducation de masse. Et donc, on voit que là, on a communication des idées, et évidemment, cette machine à vapeur, elle va permettre aussi la communication, si je puis dire, des personnes et des marchandises et des choses. Avec...